Bonjour à tous. Je suis un peu dans des lieux étrangers. C'est normalement le responsable des cafés scientifiques qui devrait ouvrir, mais je le fais. Mon nom est Bernard Creta et moi je suis ici parce que, en général, je suis celui qui anime des cafés mortels. Alors, vous dire deux mots en quoi consiste cette drôle d'histoire de café mortel. Quand j'ai réalisé dans mon musée d'ethnographie de Genève l'exposition « La mort à vivre », c'était en 1999, j'ai découvert quelque chose qui m'a marqué pour le reste de ma vie, mais vraiment pour le reste de ma vie, c'est l'horrible poids des secrets que les personnes et les familles gardaient autour de la mort sans pouvoir jamais en parler. Et ça m'a tellement blessé à l'intérieur de moi que j'ai décidé, je me suis dit, il faut qu'on ouvre des espaces pour parler librement de tout ce qui touche à la mort, c'est-à-dire la fin de vie, la mort et le deuil. Alors en réfléchissant, je me suis dit, mais où est-ce que c'est le meilleur endroit pour parler de ça, hein? Alors là, en bon valaisan, je me suis dit, mais c'est au bistrot. Pensez tous à un moment donné, qu'on a tous un moment donné au café dit des choses fondamentales sur nous, et en même temps, on a pu dire le lendemain, mais oui, je les ai dit au café. Alors, ça a commencé à Neuchâtel. J'avais dit, parlons de la mort au bistrot, et le lendemain, une personne qui a été diacre de l'église protestante m'a téléphoné en disant, nous à Neuchâtel on y va, et ils ont trouvé ce très beau mot de café mortel, et nous avons commencé en avril 2004 au café du théâtre du passage. On se disait, on va peut-être être deux ou trois, on était 250, et depuis je suis à peu près à ma 90e édition entre ici, la France, la Belgique, le Québec, et je suis chaque fois surpris de l'importance de pouvoir parler librement de la mort, à quel point, même encore aujourd'hui, les personnes gardent toute une série de choses qu'elles ne peuvent pas dire, qui les font souffrir pendant longtemps. Et puis, quand on arrive à échanger, on s'aperçoit en définitive que ceux qu'on pense tous vivre individuellement, personnellement, on est très proches les uns des autres. Et tout ce qu'on fait dans ces bistrots, je le dis sans arrêt, pour un moment, c'est de créer la communauté des vivants face à la mort. Alors ce soir, on est réunis, mais avec une formule un peu différente que les cafés mortels, puisqu'il y a, on va entendre, des spécialistes éminents qui sont là, et ensuite tous vous inviter à parler. Ce soir, on est autour d'un thème très précis, très actuel, l'aide au suicide, coup de pouce ou coup de grâce. Quand j'ai commencé les cafés mortels, on parlait très très peu de ce sujet. Aux alentours de l'an 2000, c'était encore un sujet très très réservé, en douce, même si la pratique était bien antérieure à ça. Et depuis, j'observe que ça devient véritablement une question qui touche tout le monde. Une question fondamentale qui touche tout le monde. Et alors, de tout ce que moi j'entends dans les cafés mortels, autour de l'aide au suicide, c'est ceci. C'est, si vous voulez, une énorme, je suis obligé de lire, hypocrisie sociale. Pourquoi je dis ça? Parce que, entre les pratiques que l'on peut observer chez les personnes et ce que disent les autres personnes, j'ai envie de dire, là-haut, au niveau théorique, il y a un abîme. Il y a un abîme. Aujourd'hui, je me rends compte que il y a plusieurs. J'ai été demandé à faire plusieurs cafés mortels sur ce thème-là. Et ce qui me frappe, c'est ceci. Que l'on soit dans le Valais d'origine très catholique, ou qu'on soit à Genève, j'observe qu'il n'y a pratiquement pas de différence sur ce sujet-là. Ça me frappe. Chez les personnes. Hein. Alors, mais évidemment, en haut, au niveau des positions philosophiques, éthiques, médicales, alors on sent une différence énorme. Et moi, je suis très soucieux de voir cet abîme se creuser entre la pratique, ce que les personnes vont choisir, là, pratiquement, ce qu'elles le font déjà, et ce qui se dit dans les sphères supérieures. Je vais régulièrement en Belgique. En Belgique, nous sommes dans un contexte tout à fait différent, où la Belgique, comme un certain nombre de pays, a adopté une loi. Et si vous voulez, contrairement à nous ici en Suisse, où au fond, il y a presque une sorte de guerre entre la médecine palliative, les associations palliatives et l'aide au suicide, en Belgique, on assiste exactement à l'inverse. C'est-à-dire que la loi belge demande à ce que ce soit les associations en médecine palliative qui prennent en charge l'aide au suicide. Voyons, on est dans un cas de figure extrêmement différent à suivre. Alors, ce soir, nous allons faire comme ça. Je vous inviterai tous et toutes à vous exprimer, y compris... Vous savez, quand on fait des cafés, pour moi, il y a une chose que j'ai maudite depuis le début de ces cafés, c'est les colonnes. Hein. Si je pouvais, je lancerais une initiative suisse pour supprimer les colonnes dans tous les cafés. Hein. Je déteste les colonnes, mais je vais tourner autour des... Et je vous demanderai, ceux qui sommes derrière la colonne, de tourner... Les colonnes, c'est l'horreur. Hein. Je souhaite voir des architectes qui fassent plus de colonnes nulle part. Hein. Parce que ça nous... Hein, vous m'aiderez à ça. Alors... Trois éminentes personnes à cette table. Madame le docteur Daphné Berner, qui nous a tenus en haleine il y a quelque temps. Je pense que vous êtes tous encore... On se demandait si vous alliez être condamnés ou non. Et votre non-condamnation a sonné comme une heure libératrice, j'ai envie de dire, pour nous tous. Je vous demanderai de vous exprimer, puis... à côté, Anna Lietti, si vous lisez Le Temps, c'est probablement la journaliste la plus talentueuse du temps. Elle a des rubriques auxquelles on ne s'attend pas, où on rit beaucoup, puis tout à coup, alors elle arrive sur la mort. Et elle a beaucoup enquêté là-dessus. Et en dernier lieu, j'ai envie de dire, monsieur le professeur Sprumont, hein, je m'étais prêt à m'incliner religieusement devant vous. Mais ce que je viens de connaître, vous êtes un drôle de professeur, hein, on va le voir. Hein. Alors, je vous propose la manière de faire suivante. Vous donnerez à chacun la parole pour commencer, pour que vous donniez votre position cette aide au suicide, coup de pouce ou coup de grâce. Et puis ensuite, j'ouvrirai à chacun et chacune d'entre vous pour que vous disiez ce que vous vivez, ce que vous pensez, ce dont vous avez envie de faire part chacun et chacune d'entre vous pour que le dialogue s'établisse entre nous. Alors, Madame Berner.
Ça n'a rien à parler spécial, mais bon, je suis membre d'Exit et je suis accompagnatrice pour le canton de Neuchâtel. Donc j'accompagne des personnes qui ont demandé qu'on les aide à mourir et ça ne me pose aucun problème parce que je dirais que c'est... Je rends service à des gens qui en ont vraiment besoin. Ils ne peuvent plus vivre, ils ne veulent plus vivre. Et puis, voilà, je réponds à leurs besoins et c'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire. Voilà.
Madame, non, juste une chose.
Oui.
Juste pour éventuellement des personnes qui n'auraient pas été présentes, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler ce qui vous est arrivé encore en tant que médecin de Neuchâtel lorsque vous avez été assigné devant le procureur. Vous pouvez juste nous le rappeler.
Bon, écoutez, en deux mots, j'ai aidé une personne, mais cette personne ne pouvait plus, puisque l'assistance au suicide présuppose que la personne se suicide elle-même. Donc soit elle boit la potion, soit si elle ne peut plus boire, elle ouvre une perfusion. Et quand je suis arrivée devant cette personne, elle ne pouvait plus rien faire du tout, mais vraiment plus rien du tout, juste vaguement bouger un orteil. Devant cette situation, moi je suis médecin, j'entends, c'était tellement dramatique, elle voulait mourir, et puis je me suis dit, bon, on va faire comme ça, si vous bougez un petit peu le pied, on dit que c'est comme si vous ouvrez la perfusion, puis c'est moi qui ai ouvert la perfusion. Voilà. Et puis le procureur voulait me condamner, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle une euthanasie directe, mais je ne comprenais pas, parce que je me suis dit, personne n'aurait fait autrement que ce que j'ai fait. Voilà. Je ne pouvais pas arriver et lui dire, bah, écoutez, c'est trop tard, vous auriez dû m'appeler avant, au revoir. Ce n'était pas possible. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qui m'est arrivé, mais Dieu merci, le juge était très bien et j'ai été acquittée.
Madame, au nom de la loi, au nom strict de la loi, vous auriez pu être condamnée.
Oui.
Vous avez pensé un moment que ça pouvait arriver, une condamnation?
Ben, le procureur voulait me condamner, puis je lui ai dit que je préfère qu'un juge se prononce. Voilà. C'est pour ça que j'étais au tribunal, parce que le procureur m'avait déjà condamnée. Il me proposait une condamnation, mais j'ai dit non, je vais aller devant un juge. Voilà.
Ça a été, si vous vous souvenez, un événement pour très très loin, hein, qui a eu, on a tous eu, je dois le dire ici, on était suspendus à ce qui se passait à Neuchâtel. Ça a été une grande étape, je tiens à vous le dire, une très très grande étape dans toute la pratique et la discussion autour de ça. Alors, je demanderai à Anna Lietti de nous donner, vous, sur ce thème-là, votre senti, votre position, votre vécu.
Je suis pour le sacro-saint droit de tirer la prise quand on le décide. Je souhaite le jour où ça m'arrivera, je pourrai plus bouger un orteil, de rencontrer un ange comme vous, madame. Pour moi, c'est clair, hein, j'ai aucune opposition à ça. Et simplement, je me pose des questions. Du jour où, au fond, le suicide assisté est devenu une pratique, où des amis à moi avaient un père, une sœur qui passait par là, tout à coup, les récits ont commencé à venir et ces récits m'ont engendré. J'ai vu qu'il y avait des tas de problèmes auxquels je n'avais pas pensé. Un des problèmes est, le paradoxe, c'est que le suicide assisté est un acte... disons, c'est le comble de la liberté individuelle, mais par définition, on n'est pas tout seul, on doit demander aux autres de nous aider. Et j'ai remarqué que la plupart du temps, en tout cas, enfin, je n'ai pas fait de statistiques, mais dans les récits que j'ai eus, lorsqu'une personne décide après rendez-vous avec Exit, elle a tendance un peu à convoquer la famille, elle a tendance un peu à le dire à tout le monde, la famille, les amis. Alors après, il y a des situations, tu y vas pas, il y a le bon fils qui y va et le mauvais qui n'y va pas, ou la belle-fille qui dit non, mais ça, les enfants qui disent mais enfin, grand-papa va mourir, puis vous le laissez faire. Enfin, voilà. Et pire que ça, j'ai vu que ça pouvait provoquer vraiment des gros conflits, jusqu'à des conflits de fratrie, et aussi que c'est pas parce qu'on est en train. Des gens peuvent instrumentaliser leur mort pour être carrément maltraitants. Je veux dire, les malades le font. Hein. C'est pas parce qu'on est malade qu'on est forcément gentil. Ou qu'on devient bon quand on a été méchant. Et je veux dire, on peut utiliser la maladie, sa propre mort, comme sa maladie, comme une arme pour faire du mal autour de soi. Et voilà, donc il y a ça. Donc je trouve que... Et ça m'interroge le fait que les gens ont tendance... À convoquer. Je me dis, il y a une espèce d'image idéale qui est. Enfin, je me dis que les gens ont moins peur de mourir que de mourir seuls. Et qu'au fond, le jour de leur mort, ils ont tendance à convoquer la scène un peu rétro, comme ça, avec toute la famille autour, quitte à faire entrer les acteurs un peu de force dans la scène, hein, quand ils n'ont pas forcément envie d'y aller. Voilà. Donc, je me pose cette question-là, puis je me pose aussi la question de savoir. Déjà 30% des gens qui font recours à Exit ne sont pas atteints d'une maladie incurable, donc ça devient une option au-delà de la maladie, en deçà de la maladie incurable. La proportion de suicides des personnes âgées est en hausse, en tout cas en France. J'ai vu l'autre jour, il y avait des chiffres, c'est juste après les ados, hein. Et donc, je me dis, dans quelle mesure, si on légitimise cette chose, par la loi, ou si on va plus loin dans la légitimation de cet acte par la loi, est-ce qu'on ne va pas vers, au fond, quelque chose qui deviendra une solution au problème de vieillissement de la population, avec une espèce de pression morale sur les vieux inutiles qui vont se sentir un peu obligés, finalement, de tirer la prise, hein, voilà. Puis l'autre question, la dernière question que je me pose, c'est Exit est déjà débordé. On voit très bien ça. J'ai vu le film de Melgar et je voyais les. Exit est débordé, il le dit beaucoup. La demande augmente. Qui va répondre à cette demande? C'est-à-dire ça, c'est une autre question. Quel genre de alors, idéalement des médecins, mais bon, si les médecins commencent à se spécialiser là-dedans, est-ce que... Ah, voilà, je me pose toutes ces questions sans du tout être contre, tout en étant pour le principe, voilà.
Une chose encore, dans les enquêtes, dans les récits, parce que c'est vrai que ça donne lieu à un récit qui entre dans la mémoire familiale. Hein. Dans les récits que vous avez entendus, est-ce qu'il y a quand même, comme moi il m'a senti, des récits où les personnes, les familles vous disent on a vécu ça, mais c'était vraiment bien.
Oui.
Vous en avez aussi entendu?
Oui. Encore une fois, je ne peux pas faire une statistique. J'ai fait un dossier récemment dans le temps où j'ai vraiment cherché l'équilibre. J'avais 4 récits. J'ai voulu en prendre 2 positifs, 2 négatifs. Alors, il y en avait un vraiment très... Voilà, le récit positif type, c'est celui où on se retrouve vraiment dans une scène à l'ancienne avec toute la famille autour. Et d'accord, tous les 5 frères et sœurs d'accord, harmonieusement pour d'aider, voilà, avec et pas de lézard, disons, pas de et quelque chose qui a un sens ou avec un espèce de avec une fin qui a un sens, une vraie délivrance, un vrai dernier moment de communion. Après, le deuxième, comme je cherchais un autre, j'avais entendu surtout des récits négatifs, donc j'en ai cherché activement un positif, et je suis allée voir Nicole Castioni qui a écrit un livre là-dessus, comment elle a accompagné son ex-mari. Nicole Castioni, c'est donc cette députée PS
Genevoise,
oui. Pardon ? Oui, et puis après, elle a écrit ce livre sur comment elle l'a accompagnée. Et en fait, je suis allée, c'était un livre qui se présente comme une célébration du droit à mourir dans la dignité, c'est bien qu'en Suisse on puisse le faire, etc. Puis en fait, quand on parle avec elle, elle dit « Mais moi, je ne pouvais pas dire non, c'était son ex-mari. Hein. » Elle l'avait quitté et il lui avait dit « Je ne supporterai pas, je ne me remettrai pas si tu t'en vas. » Quelque temps plus tard, il tombe malade et il l'appelle pour l'aider à mourir. Vous voyez, elle ne pouvait pas dire non, hein. La culpabilité était tellement énorme. Et voilà, elles avaient une fille en commun et elle dit à la fois... qu'elle ne pouvait pas faire autrement, mais que jamais elle ferait ça à ses enfants, puis qu'elle se demande s'il avait vraiment le droit de lui faire subir la violence qu'il lui a fait subir. Donc, au fond, le témoignage positif que je suis allée chercher, il est devenu négatif. Voilà. Donc, sur mon échantillon de 4, voilà. Mais enfin, encore une fois, je ne sais pas. Peut-être que plus il y a de gens de la famille... plus le problème se complique, et donc plus il y a des risques de problèmes, et comme ils sont nombreux, c'est eux qui racontent le plus, donc il y a probablement un biais statistique là.
Très bien. Merci, Anna Lietti. Alors, je me tourne vers vous, hein, monsieur Sprumont, avec 2 questions. Hein. Vous êtes l'un des fondateurs, ou le fondateur de l'Institut du droit de la santé, Hein? Et j'ai deux questions. Au fond, est-ce qu'il y a une position qu'on pourrait dire officielle de votre institut sur ce sujet? Est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Est-ce que... Et deuxième question, quelle est votre position personnelle à vous sur ce problème-là?
Alors pour la première question, c'est non. Puis la deuxième, ça dépend. Je suis juriste, donc je joue mon rôle. Je crois que c'est important. Et quand on lit le titre de...
Dites-nous juste votre institut.
L'institut n'a pas de position. Et je tiens
mais
à
sa vision générale, c'est...
Sur ce thème?
Non, en général, ah. Ses tâches.
Alors, l'institut, on l'a créé avec Olivier Guillot il y a 20 ans, 19 ans en fait. L'idée, c'était que tous les deux, on est très impliqués dans le domaine médical depuis très longtemps. Et quand on s'est rencontrés, on a réalisé tous les deux qu'on avait la même expérience avec les médecins. Excusez-moi. Qu'on avait la même expérience avec les médecins, avec les professionnels de la santé, c'est qu'il y a 20 ans, on arrivait un peu comme dans les caricatures de Daumier. Quand on se présentait comme juriste, ça flottait dans la salle, ou les méchants qui arrivaient. Et avec Olivier, on trouvait ça un petit peu lassant, d'autant plus que le droit est un outil relativement neutre. Un médecin a le droit de se faire défendre, Daphné Bernard a eu son avocat, comme un patient. Et donc, il y a une neutralité du droit, il y a une possibilité pour le droit aussi d'aider finalement, de faciliter la recherche de solutions. C'est la finalité du droit dans notre société, hein, de trouver la résolution non violente des conflits. Et à partir de ce constat, nous avons décidé de créer un institut, et on l'a fait de manière un petit peu à la hussarde. On a écrit une lettre à toutes les facultés de droit, toutes les facultés de médecine en 93 pour dire nous avons créé l'Institut de droit de la santé. Et une année après, on était reconnu par le Conseil d'État. On a triple vocation. D'abord, une vocation de faire de la recherche. Donc nous produisons des rapports, des publications, des articles, nous organisons des conférences. On a eu la journée droit de la santé qui s'est déroulée ici ce vendredi sur la thématique de la protection des données. Nous travaillons aussi sur un axe de l'enseignement. Aujourd'hui à Neuchâtel, vous pouvez suivre un enseignement de base en droit de la santé qui couvre aussi bien le master en droit que des formations continues, donc post-grade, CAS, MAS, DAS, etc., en droit de la santé et des biotechnologies. On fait aussi de la formation sur Internet, en ligne, sur des questions de recherche, ça s'appelle TREE. Donc on fait de la formation à tous les niveaux. Et enfin, on a un axe de mandat. Nous sommes sollicités par les cantons, par la Confédération, par des institutions publiques en général. On ne fait pas de travail d'avocat, on travaille donc sur des questions plutôt de politique, des questions de société. Quand nous sommes sollicités, on peut dire que toutes les législations sanitaires cantonales romandes ont été à un moment donné travaillées ou retravaillées par l'Institut, puisque les questions de directives anticipées, celles dont on traite aujourd'hui, à un moment donné, nous en avons traité, et ça a terminé sur une loi, tous les cantons romands. Donc ça, c'est un peu notre vocation. L'année prochaine, on fête nos 20 ans. Voilà. En ce qui concerne... Pardon, j'avais mal compris votre question. Je pensais que vous me demandiez de me positionner sur... Si l'Institut a une position de principe. Oui. Et comme institut universitaire, on essaie d'éviter au départ d'avoir des préjugés dans un sens ou dans l'autre. Et ce qui m'amène vraiment à vous donner ma réponse personnelle, c'est vraiment ça dépend. Je n'ai pas de préjugés par rapport à l'assistance au suicide. Et si je prends le titre de la présentation, coup de pouce ou coup de grâce, je constate que les deux sont tout à fait compatibles avec une approche compassionnelle et respectueuse de l'individu. En principe, on va utiliser le terme coup de pouce dans des associations caritatives ou d'assistance en général, c'est plutôt sympathique. Le coup de grâce est un acte que l'on voit de moins en moins, fort heureusement, mais qui a aussi un but compassionnel, hein, pour éviter que la personne ne souffre. Donc, du point de vue du titre de notre présentation, ça ne nous donne pas beaucoup d'indications sur ce qu'on recherche dans le débat. D'un point de vue juridique, par contre, à mon avis... J'aime bien citer une disposition qui est très simple. On dit que c'est compliqué, hein, mais ça ne l'est pas. Alors, l'article 111 du Code pénal, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Donc, il y a des autres dispositions qui sont applicables. C'est intéressant, c'est l'article 111, vous noterez, c'est l'article 1er des 10 commandements dit la même chose, hein, tu ne tueras point. On trouve le même numéro. Mais d'un point de vue juridique, la vie, c'est une valeur qui est une valeur fondamentale. Sans la vie, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'être humain. Et donc la vie est protégée comme un bien essentiel en tant que tel. Après, le législateur le dit, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées, donc il y a l'intentionnalité de tuer quelqu'un qui est réprimé, puis après il y a des conditions particulières, et on va arriver à un stade avec une disposition sur l'assistance au suicide, avec en Suisse une attitude du législateur historique, sociologique, on peut le dire très particulière. La Suisse, dans sa législation, connaît une disposition particulière sur le meurtre sur la demande de la personne ou incitation à assistance au suicide, qui est très tolérante. Parce que c'est la culture suisse que d'avoir cette approche relativement tolérante par rapport à l'assistance au suicide. Et donc, d'un point de vue juridique, ça va chaque fois dépendre des circonstances. Ce qui est très délicat, finalement, comme l'a dit Madame Lietti, c'est qu'aujourd'hui, on publicise toujours davantage, on théâtralise l'assistance au suicide, on en fait une question publique, alors qu'au départ, c'est une question fondamentalement privée. C'est la maison dans la maison, ce choix-là, de se suicider. La première personne au courant, c'est la personne qui va se suicider. Souvent, c'est la dernière, hein, quand les personnes font des tentatives de suicide qui réussissent. Et là, avec l'assistance au suicide et la médiatisation de l'assistance au suicide et la médicalisation de l'assistance au suicide, autour de cette médiatisation, est justement liée au fait qu'on fait une sorte de coming out. On veut finalement renvoyer à la face du monde cette décision, on veut interpeller les autres à travers cette décision, et ça, c'est pas nécessaire. Et c'est ça qui me surprend beaucoup, si on regarde le débat qui s'est déroulé dans le canton de Vaud, où on a vu des témoignages très prenants dans les EMS, où lorsque une personne souhaitait, à un moment donné, exprimer un souhait de faire appel à une assistance au suicide, qu'elle en parle aux responsables de l'OMS, qu'elle se confronte aux médecins de référence de l'OMS. Et ma question à chaque fois, c'est mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de vous confronter à cette difficulté supplémentaire ? Et là, c'est vrai que je n'ai pas de réponse. J'essaie d'observer ça avec, avec attention, et je serais très content de pouvoir débattre avec nos collègues. Je connais l'acte qu'a fait Daphné Berner, je le respecte profondément, je trouve que c'est un acte héroïque. Comme juriste, je le dis, parce que justement, cette disposition, elle est très claire. Et si un médecin pense qu'effectivement, c'est un acte qu'il faut accepter et qu'il faut vivre à un moment donné, c'est parce que les situations sont extrêmes et qu'elles se justifient. Et à ce moment-là, le juge de notre cour neuchâteloise a eu une réponse tout à fait pertinente comme juriste, et c'est fort heureux que tu n'aies pas été condamné dans cette situation, parce que justement toutes les conditions étaient réunies pour bien montrer qu'il y avait un acte d'humanité qui était là derrière, mais un acte responsable. Ce n'était pas un acte prémédité, c'était souligné dans le jugement, ce n'était pas un acte dans lequel il y avait du militantisme, c'était un acte d'un être humain à un autre. Et à travers cet acte courageux, parce que la condamnation, elle était un risque réel, nous l'a été dit, puisque le ministère public avait déjà tranché, hein, et il l'a fait aussi lui, justement, puisque les conditions légales étaient réunies. Je crois qu'on doit avoir l'idée que c'est un acte exceptionnel. Et aujourd'hui, on voudrait finalement en faire une pratique, on voudrait légaliser, on voudrait déresponsabiliser les acteurs. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué.
Merci infiniment. Madame Bernard.
Oui, j'aimerais quand même réagir un peu à ce que j'ai entendu. Parce que par exemple, en tout cas, toi dernièrement, Dominique, tu dis on théâtralise la mort et l'assistance au suicide. Là, j'aimerais m'inscrire en faux. Les gens, ils théâtralisent rien du tout. Au fond, il y a une grande différence, je trouve, entre un suicide classique, où la personne, un beau matin, on ne la retrouve pas, elle est allée se flinguer ou se pendre dans une forêt. Alors là, je peux vous dire que les dégâts sur la famille, ils existent aussi et autrement qu'un décès par assistance qu'on a préparé où on va dire au revoir à sa famille. On ne les convoque pas parce qu'on veut absolument faire du théâtre. On leur dit au revoir. Et au fond, quelque part, vous avez eu 4 récits mauvais. Moi, j'en ai beaucoup de très positifs où les gens sont soulagés. Ça s'est bien passé et il n'y a pas de théâtralisation. Alors que maintenant qu'il y a des personnes méchantes toute leur vie et qui restent méchantes et qui utilisent leur mort, j'en ai pas encore vu des cas comme ça, personnellement. J'ai pas vu du tout de personnes de ce type. Ce que j'ai vu au contraire, c'est des gens qui, au fond, veulent dire au revoir à leur famille. Et quand il y a des conflits, alors je vous dis, dans les conflits, les familles que j'ai vues, c'est vrai qu'il y a certains qui ne viennent pas, un enfant qui ne vient pas. Au fond, quand vous discutez avec la famille, vous vous rendez compte que le conflit, il était bien antérieur au fait que la personne a choisi de mourir. J'entends, au fond, l'assistance au suicide, ça ne doit pas être quelque chose qui guérit de tous les conflits de famille. Donc il ne faut pas non plus le voir comme quelque chose qui devrait être fait d'une manière où tout est fantastique. Il y a toujours des familles qui se disputeront avant ou après, et il y en a d'autres où, au contraire, le fait d'avoir pu parler qu'on va partir peut, au contraire, rapprocher certains membres de la famille. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais dire, c'est que quand même, moi, je trouve qu'il faut faire une grande différence entre le suicide classique et l'assistance au suicide. Maintenant, vous avez dit, Madame Lietti, qu'on accompagne beaucoup de personnes qui n'ont pas de maladie mortelle. Alors, c'est vrai qu'on en accompagne certaines qui n'ont pas de maladie mortelle, en tout cas pas mortelle, à braver ses chances, mais qui sont, il faut dire que la médecine moderne, elle vous sauve de situations pas possibles, mais en vous laissant dans les états pas possibles non plus. Donc il y a certaines personnes que je vois qui sont dans un tel état que personne n'aimerait vivre comme elles vivent. Et au fond de dire, elles n'ont pas de maladie mortelle, elles n'ont qu'à continuer à vivre. J'entends ça. Mais bien sûr qu'il y a des personnes qui ne sont pas de maladie mortelle, mais qui ne peuvent plus continuer à vivre comme elles sont. Et voilà, donc au fond, il ne faut pas dire que ça va être le fait qu'on va être dans une situation mortifère ou la situation où la société dira, ah, vous êtes inutile et vous êtes foutu, donc vous devez mourir. On n'en est pas là du tout, et je trouve que c'est, justement, c'est ce que j'entends toujours, ah, la pente glissante, bientôt, demain, tout le monde dans les homes très, très dépendants, ils sentiront obligés. Non, j'ai encore jamais vu de personne qui se sentait obligée, ni parce qu'elle coûte cher à sa caisse, ni parce qu'elle consomme beaucoup de soins par des soignants. Ce n'est pas ça qui les motive, c'est leur état. Et ils peuvent très bien ne pas avoir de maladie mortelle et puis quand même souhaiter mourir. Il y en a qui souffrent de devoir continuer à vivre. Voilà.
Anna Lietti, prenez le micro.
Ce que j'entendais par là, par le fait que c'est pas du tout, ils ont qu'à continuer. C'est du moment qu'on n'est pas, on n'a pas une maladie mortelle, la question se pose dans les termes de est-ce que ça vaut encore la peine ? Est-ce que ça vaut encore la peine ? Réponse non. Hein ? C'est ce que en allemand on appelle le Bilanz Suicide, c'est-à-dire les inconvénients de la vie sont plus, etc. On fait le voilà. Et l'idée, on regarde le futur, on ne dit pas maintenant, c'est déjà comme ça. On se dit comment ça peut évoluer, hein ? C'est ça la question. C'est où est-ce qu'on va ? À quoi est-ce qu'on ouvre la porte ? Mais c'était la question dans l'hypothèse d'une légitimation ultérieure du suicide assisté par la loi. Hein ? Moi, je trouve que la situation actuelle, elle va très bien, on est d'accord. D'accord, c'est ça.
Ouais. Alors, j'aimerais vraiment ouvrir la discussion, donner la parole à chacun et chacune d'entre vous. Prenez-la, dites, acceptez de dire. J'ai vu, madame, que vous aviez... Est-ce que je vous donne un micro, hein ? Je commence par vous, hein ? Ah, voilà, il y en a là. On vous écoute.
Si vous permettez, je voulais juste partager avec vous ma opinion sur la mort. La première, c'est quand j'avais 10 ans et j'ai assisté à la mort naturelle de ma tante. Alors elle m'a demandé, j'arrivais à l'école, de l'école, elle me demande c'est quelle heure, moi j'ai dit c'est une heure, maman elle vient quand, moi j'ai dit dans une heure. Alors je vais attendre parce que je vais mourir. C'est ce qu'elle a dit. Et puis elle avait 86 ans. Et puis déjà, je dois rappeler les médecins qui étaient pour l'époque, c'était l'année 50, 51. Ouais. donc en Pologne. Et puis, il a dit, le jeune médecin, il a dit, mesdames, comment vous voulez? Parce que je vois votre tante, votre grand-tante, elle ne peut plus vivre. Alors, on arrête tous les médicaments. Il n'y avait pas la manière d'aider à ce suicide, mais à mon avis, c'était ça. Oui. Arrêtons les tenir par force. Vous ne voyez pas que le cœur s'arrête, le vessie, tout, elle ne veut plus manger. Mais elle n'était pas malheureuse. Elle était, voilà, puis mais j'ai assisté vraiment tout jusqu'à qu'elle a fait les grands yeux comme ça, puis c'était fini.
Puis elle est morte et vous étiez là.
Elle est morte, voilà. Elle avait 86 ans.
Et aujourd'hui, vous en êtes où?
Aujourd'hui, j'ai une autre chose, parce que j'ai vu, après 40 ans, 5 ans, 97, mourir ma mère, que j'ai assisté aussi. Alors, elle avait 96 ans. Elle était beaucoup soignée, elle avait beaucoup de médicaments, etc. Elle était sous la morphine parce qu'elle a tombé et puis l'opération s'est bien passée, mais elle était mal. Et puis elle a demandé plus en plus de morphine et puis le médecin l'a dit au téléphone, parce que c'est le téléphone, et elle dit, je ne peux pas dire à l'infirmière plus, vous êtes au maximum. Mais l'agonie, elle a duré 3 semaines. Et puis la troisième, c'est mon mari qui s'est endormi à l'hôpital Portales avant de mourir, avant d'être opéré, qu'il a très bien fait, moi je pense. Mais parce que comme il n'était pas sûr comment elle va réussir l'opération, et puis en avant que je parte à 9 heures le soir, on l'a ramené à 5 heures, et puis à 9 heures le soir, il m'a dit, mais tu veux que je reste encore? Non, tu vas à la maison parce que tu n'as pas dormi la nuit passée, tu me portes Gazeta dello Sport, avec les résultats.
Madame, non, vous, on ose vous demander, j'ose vous demander, vous avez fait un choix?
Moi?
Oui.
Moi,
pour votre mort?
Oui, premièrement, je ne vais pas souffrir et je ne vais pas souffrir mes plus proches.
On ose vous demander, vous êtes inscrite à Exit?
Non, pas encore. Pas encore.
Vous allez le faire?
Peut-être. Ça dépend de votre discussion.
Ça dépend de ces. Voilà. Ah, ça c'est bien. Hein.
Ah, oui, donc, voilà, ça dépend.
Vous êtes priée d'éclairer madame. Vous posez la question.
Je me pose la question et je pense qu'encore une chose, seulement qu'on peut choisir maintenant quand on veut avoir un enfant, si on veut, si on ne veut pas, on peut avoir un enfant même à 60 ans. Alors, pourquoi on ne peut pas choisir comment on veut mourir?
Alors, je voudrais demander, oui, à monsieur, vous donneriez le micro à monsieur?
Non, moi, juste deux mots. J'ai été très... Donc, les cafés mortels, que je trouve très intéressants. C'est vrai qu'on est dans un monde où on médiatise tout. Et la mort est une chose qui est très mal vécue. Je ne vous apprendrai rien. Enfin, je ne sais pas si ça a changé ces dernières années. Mais jusqu'à tout récemment, dans les 5 facultés de médecine de Suisse, la mort est un sujet qu'on ne traite pas. Donc le médecin reçoit son diplôme de médecin sans avoir réfléchi sur le plan académique. On ne lui a jamais parlé de la mort. Et en fait, je crois que c'est un grand problème. Vous parliez du fossé qui est entre les gens et les professionnels. On pourrait dire les professionnels de la santé. Je suis médecin. Je suis accompagnateur Exit. Je vais juste situer quand même le... En étant médecin accompagnateur Exit, je suis confronté lorsque j'accompagne quelqu'un, enfin je suis confronté, je prends contact avec son médecin traitant. Et je peux dire que la majorité des médecins ont une attitude plutôt opposée à l'activité d'Exit. Alors certains acceptent d'entrer en matière pour leur patient, par loyauté vis-à-vis du patient qui a choisi. Mais je me rends bien compte que leur opposition, c'est rien d'autre qu'une grosse angoisse personnelle face au problème de la mort. Alors moi, en tant que médecin, Je dis, le patient n'a pas à payer le prix de mon angoisse éventuelle de la mort. Je suis là pour l'écouter, en fait. Et alors, juste pour aller dans le sens de ce que disait Daphné, pour avoir assisté quand même, je suis tout à fait d'accord avec elle, la théâtralisation, c'est pas du tout ça. Au contraire, on pourrait signaler le nombre de lettres que les familles adressent à Exit, après, adressées aux accompagnateurs, où il est fait état de la façon magnifique, parce qu'il ne faut pas croire que les accompagnateurs arrivent, hop là, on voit les gens, on évalue la situation, on les revoit deux fois, trois fois, cinq fois s'il faut. Et il y a des gens qui font appel à nous et qui nous rencontrent et qui ne nous demanderont pas d'assistance. On est comme un joker pour eux. Hein, voilà. Donc la situation n'est pas du tout aussi épouvantable que certains veulent le dire.
Monsieur, s'il vous plaît, oui. Si ma question est indiscrète, vous ne répondez pas. Non. Mais je me permets de vous-même, pour vous-même, vous avez,
je peux vous répondre.
Vous avez pris une décision.
Bien sûr.
On ose savoir comment.
Mais bien sûr. Donc, moi, personnellement, je suis membre d'Exit. Et c'est vrai que c'est une question que j'ai réfléchi, à laquelle j'ai réfléchi, bien sûr, en toute sérénité. Pour moi, vivre, oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Et je conteste le droit de quiconque de dire à ce moment-là que les conditions que je juge inacceptables sont fausses. On n'a pas le droit de juger. Je vais dire, on a vécu des situations, j'ai juste envie de dire, je ne veux pas monopoliser la parole, mais en fait, nous avons accompagné, d'ailleurs c'est avec Daphné qu'on l'a fait, les deux, une vieille personne dans un home médicalisé du canton. Dans les homes médicalisés, le personnel est beaucoup français, portugais, espagnol, qui sont donc des populations qui ont plutôt un préavis extrêmement négatif à l'égard.
Ils sont en général catholiques, hein ?
Tout à fait. Cette personne était vive, elle avait toute sa tête. Cette personne était aveugle, alors que toute sa vie, elle avait crocheté, elle avait fait des travaux manuels, là, elle ne pouvait plus les faire. Elle était sourde, alors que toute sa vie, son hobby, c'était de chanter. En plus, elle avait une incontinence de selle progressive qui s'était déclarée. Elle avait 88 ans, 90 ans, je ne sais plus. Et cette personne dit, comme ça, je ne continue pas de vivre. Et bon, on est allé parler au personnel avant, donc voir la patiente, bien sûr, parler au personnel, et puis leur faire comprendre, mais de quel droit jugez-vous que cette femme doit encore vivre ? La vie n'a plus de sens pour elle. Elle n'est pas atteinte, elle ne va pas mourir dans les 6 mois, sûrement pas. Mais elle dit, ma qualité de vie comme ça, je la juge. Alors, elle était dans ce home au 6e étage. On préfère qu'elle ouvre la fenêtre, puis qu'elle se jette. Non.
Oui, Anna.
On préfère rien. On dit qu'elle a le droit d'avoir recours à l'assistance au suicide. Personne ne lui. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans une situation où ce qu'elle a fait est interdit. On est d'accord avec ça.
Non, mais tout à fait.
D'accord.
Non, non. D'accord. Mais il faut expliquer aux gens. On est jugé.
Ah oui. Alors, non, mais qui, bon, monsieur, là-bas derrière, vous donneriez le micro. Puisque vous êtes au fond, j'ose vous demander de vous lever. Voilà.
Voilà, je me dois de réagir et puis je réagis en tant que directeur d'une institution pour personnes âgées. Déjà, de dire qu'on n'a pas que du personnel français, portugais et italien. Je viens dans une institution où on n'a aucun frontalier donc une majorité de Suisses. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Moi, je pense en tant que directeur, et là, je vais donner mon avis personnel, hein, je ne oui. représente aucune autre institution, mais dans notre institution, la décision qu'on a prise par rapport si on était confronté à une demande d'assistance au suicide, déjà de dire, et je reprendrai ce que disait M. Sprumont, c'est une décision individuelle, c'est une décision qui appartient à la personne. Et c'est la personne qui va elle-même définir son cheminement, puis qui va prendre cette décision. Nous, en tant qu'institution, on va être là, on n'a aucun rôle à jouer. Nous, on n'a aucun rôle à jouer. Moi, j'entends, si j'ai une personne qui vient vers moi puis qui me dit, Monsieur le directeur, je souhaite avoir l'assistance au suicide, je lui dis, OK, c'est votre besoin, c'est votre attente, c'est votre demande. À vous, maintenant, de prendre les dispositions nécessaires pour le faire. Votre chambre, c'est votre endroit privé, elle vous appartient, donc vous y faites ce que vous voulez, au même titre que vous pouvez avoir une compagne ou un compagnon qui vient vous rendre visite, etc. Donc vous y faites ce que vous voulez. Voilà. Mais en contrepartie, la personne ne peut pas demander à l'institution une aide. C'est-à-dire que nous, on ne va pas téléphoner à Exit pour faire venir Exit. Et comme on ne va pas non plus, je dirais, Exit pour venir, mais c'est vrai que si le personnel dit... on ne veut pas être présent, on veut pas... le personnel, c'est son droit de dire non, je ne veux pas être présent. Le ressenti du personnel par rapport à la demande, on doit la respecter aussi. Alors le personnel n'a pas de raison de juger, là je trouve que c'est vrai quand au moment on juge, non, mais on doit aussi respecter le personnel. Donc c'est vraiment à la personne de faire sa démarche elle-même, et nous c'est ce qu'on a mis en place. Voilà.
Donc c'est, s'il vous plaît, c'est tellement important. Donc, il n'y a aucun problème pour que vous autorisiez la mort dans vos murs.
Alors, pour moi, il n'y a aucun problème. Enfin, c'est la liberté du résident de choisir sa mort. Et je préfère nettement qu'il fasse appel à Exit, qu'il saute du cinquième étage, du fait qu'on a cinquième
deuxièmement.
Étage. Mais juste parfois, oui. Finir. Alors, c'est clair qu'au niveau institutionnel et par rapport à la vie collective, oui, ça aura un effet. Parce que c'est vrai que les autres résidents vont se poser des questions. Alors là, il est de notre devoir à nous d'expliquer aux autres résidents que c'est la décision personnelle, intime du résident, que nous, on respecte ceci.
Monsieur le directeur, maintenant, parce que je le connais, ce cas-là, hein, je suis en charge de formation dans des institutions comme la vôtre, si le personnel vous dit... hein, non seulement on ne veut pas être là, mais on veut être là, parce qu'on a bien connu ce malade, on l'a bien suivi, on veut le suivre jusqu'à la mort. C'est un gros problème dans les institutions, hein, où on écarte le personnel qui dit, mais au fond, on nous prive de la mort, alors que si votre personnel vous dit, mais nous, on veut être là, on veut, quelle est votre position ?
Si j'ai une infirmière, une aide-soignante ou autre, hein, qui me dit « mais moi je souhaite être à côté, je souhaite être présent, si le résident le souhaite », j'entends, là c'est, je dirais à la personne, à ma collaboratrice, mais si vous souhaitez y être, soyez présent, mais c'est vous qui prenez la décision, c'est vous qui allez voir le résident, et puis je dirais que là vous y êtes à titre en tant que personne, en tant qu'individu qui souhaite, et voilà, hein. Je lui conseillerais de ne... La seule chose que je mettrais, c'est que je lui conseillerais de ne pas être en tenue professionnelle, mais ça, c'est plus par rapport à la vie de la collectivité, pour qu'il n'y ait pas une confusion des rôles. Mais il n'y aura même pas à demander mon autorisation.
Et quel est le rôle, dans ce cas, on vient de l'évoquer, ouais. du médecin de l'institution? Vous avez un médecin de l'institution?
Alors, On a un médecin de l'institution, enfin nous, c'est un peu spécial, on avait un médecin d'institution, mais on n'a plus de médecin d'institution parce qu'on a de la peine à en retrouver un. Mais pour moi, le médecin de l'institution, il doit aussi laisser aller les choses. Attends, il n'a pas de raison de s'opposer. C'est une décision, moi je reprends tout à fait ce qu'a dit M. Sprumont, c'est une décision individuelle qui nous appartient, qui est personnelle. Après, on fait le choix, on accepte ou on n'accepte pas.
Et dernière question là. Le vote qu'on a vu dans le canton de Vaud.
Alors, moi, je trouve que... C'est...
Qui horripile Daphné, si j'ai bien compris.
Alors, moi, je trouve qu'on n'aurait jamais dû légiférer. J'entends, là, il y a une erreur au niveau juridique. Il n'aurait jamais dû avoir de loi qui soit faite. Moi, je trouve que M. Maillard, on a reproché à M. Maillard de ne pas se défendre ce projet avec virulence, mais je pense que lui-même l'a dit, c'est un sujet qui ne peut pas être légiféré. Je pense qu'à l'heure actuelle, on a des articles au niveau du code pénal, ça va bien, mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin, parce que c'est quelque chose de personnel et d'intime. Voilà, ça c'est ma conviction.
On est absolument tous d'accord sur cette question, donc. Hein.
Oui.
On est tous d'accord là-dessus.
On est tous d'accord là-dessus. Alors, merci. Donc, la position que vous nous donnez est très, très ouverte. Elle est assez...
C'est la mienne.
Il y a monsieur
hein.
devant vous qui veut parler. Hein. Monsieur là. Monsieur, s'il vous plaît, la position que vous avez défendue, monsieur le directeur, l'institution, la position que vous avez défendue, admirable. Vous êtes un peu un cas d'exception à Neuchâtel ou au contraire, on la trouve chez beaucoup.
Alors, je dirais que c'est la position qui est défendue par l'ANEMPA, par l'association neuchâteloise des établissements et de maisons pour personnes âgées. C'est ce que défend cette association, qui regroupe à peu près une vingtaine d'institutions. Mais il est clair que comme on est membre de l'institution, il peut y avoir certaines, enfin, on est membre de l'association, il peut y avoir certaines institutions qui sont membres de l'ANEMPA qui peuvent diverger par rapport. Mais c'est vrai que là, ce que j'ai dit, c'est ce que souhaite et ce que défend la NEMPA, en fait.
Vous donneriez le micro, monsieur, qui est juste... Non
ah oui. J'aimerais quand même dire quelque chose.
Oui, intervenez.
Soyez
plus...
La théâtralisation à laquelle je fais référence est celle que le docteur Boudry a évoquée. Je ne comprends pas pourquoi les gens d'Exit doivent aller discuter avec le personnel s'il n'y a pas une demande de la part des résidents. Ah oui, s'il n'y a pas une demande, ce qui moi m'étonne, parce que nous avons ici deux, peut-être d'autres représentants d'Exit, mais il m'est arrivé d'en côtoyer d'autres, et il y a du prosélytisme, il y a aussi d'autres associations où la théâtralisation à laquelle moi je fais référence, c'est justement vis-à-vis du personnel, vis-à-vis des institutions. La position qu'on vient d'entendre, c'est pas qu'elle est admirable, elle est juridiquement juste, elle est normale. C'est ça qui me paraît bizarre.
Ah non, mais dis admirable, parce que si vous venez dans mon canton, c'est pas comme ça. Hein. Très souvent, et y compris encore sur Genève, des fois où je suis, dans mon canton, hein, on est plein, si je vous racontais des histoires, où le personnel de l'EMS, on oblige le malade à sortir, à trouver une chambre. Hein.
Alors, si le personnel ne respecte pas les droits des patients, il faut faire quelque chose. Mais c'est dans les droits des patients, comme vous l'avez dit, la chambre dans l'EMS ou à l'hôpital, c'est un espace privé. Le patient, il fait ce qu'il veut. Vous me permettez, on va sauter du coq à l'âne. J'ai donné ma leçon inaugurale sur le titre « Eros et Thanatos ». Alors, on parle de la mort. Je vais vous parler de sexualité. Je connais un directeur d'hôpital, heureusement qu'il n'est plus directeur d'hôpital, qui disait « Chez moi, pas de sexe ». C'était une fois, on parlait de droit des patients, il m'a dit « Chez moi, pas de sexe ». J'ai dit « Ouais, ça doit être triste quand même ». Et dans un hôpital, imaginez qu'il n'y a pas de couple, quand vous avez un partenaire adulte qui se trouve là, il y a sa femme ou bien inversement son mari qui vient, la porte se ferme, un petit câlin, il n'y a personne qui voit rien, ça peut se faire. Et par rapport à la mort... Quand vous avez dit « Ah, mais c'est admirable, vous acceptez la mort dans votre établissement », je pense que dans un EMS, ils n'ont pas tellement le choix. Hein. A priori, les patients, ils partent les pieds devant, hein. Ils ne partent pas debout. Et donc, repensons à tout ça du point de vue des droits des patients et du droit du personnel. Selon le droit actuel, et sans aller dans l'exemple de la législation vaudoise, tous les patients ont un droit de se déterminer par rapport à leur traitement. Tous les patients ont un droit de se déterminer par rapport à leur relation avec l'extérieur. Si moi, je veux avoir la visite de mon imam ou je voudrais avoir la visite d'une professionnelle parce que j'ai des petits besoins, le personnel n'a rien à dire. La chose, par contre, je dois respecter comme résident, c'est... le règlement interne, je dois respecter les autres, je dois respecter... J'ai eu un problème dans un EMS, c'était une dame qui avait besoin d'argent de temps en temps et qui faisait le plus vieux métier du monde. Ça dérangeait certaines personnes et puis après, elle a voulu faire un téléphone rose. Le directeur était embêté parce qu'ils étaient deux dans la chambre. Alors, vous comprenez, ça créait des tensions. Mais là, on arrive à un moment donné où ça pose un problème parce que, justement, on rentre dans la sphère de l'autre. Par rapport au décès, s'il n'y a pas théâtralisation, et je reviens vraiment là-dessus, s'il n'y a pas un acte vindicatif, regardez ce que je fais, c'est fantastique, faites comme moi. Mais non, si discrètement, humainement, après un processus qui est personnel, fait son choix, on s'adresse à un médecin extérieur, que ce soit un médecin d'Excite ou d'autres. Et ça, je dois le dire, il n'y a pas que les médecins d'Excite qui sont d'accord d'intervenir, et je crois que là-dessus, c'est très important. Parlez-en à votre médecin, avant même de prendre une carte d'Excite, peut-être que votre médecin vous accueillera de manière tout à fait positive pour vous dire, mais écoutez, je comprends bien votre position. Donc, si on revient d'un point de vue juridique, les soignants n'ont pas le droit d'interférer dans la sphère privée du patient, les professionnels n'ont pas le droit d'imposer leur vision du monde, de la vie, leurs valeurs au patient. C'est le patient qui choisit. Et ensuite, c'est un modus vivendi qui doit s'établir. Et c'est toujours le patient, finalement, qui va décider. Et ça, je crois qu'à la base, le droit suisse est bien fait. On a une tolérance vis-à-vis de l'assistance au suicide, ce qui permet justement une approche compassionnelle et une non-condamnation de la personne lorsqu'il y a une assistance au suicide qui est faite de manière non scrupuleuse, non égoïste, non motivée par des motifs qui sont autres que des motifs nobles. Et je crois que à partir de là, il y a des médecins responsables qui font leur choix, qui peuvent le faire. Et de légiférer en la matière, comme ça a été fait dans le canton de Vaud, heureusement, notre Parlement fédéral, de nouveau cette année, a bien confirmé, en rejoignant la position du Conseil fédéral, qu'il ne paraissait pas pertinent de légiférer en la matière en Suisse. Dans le canton de Vaud, ça s'est fait. Je pense qu'Excite a eu fondamentalement tort de faire sa procédure. Le seul effet positif, c'est quand vous me faites cette remarque, « Ah, mais venez voir les EMS dans le canton de Genève ou dans le canton de Vaud, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ben, » allons-y, parce que le personnel là-bas a un sérieux besoin de formation, un sérieux besoin d'être remis à la page par rapport aux règles de droit, qui sont des règles de droit fondamentales et qui ne méritent pas d'exception.
Je demande qui parmi vous, monsieur, voilà.
J'aimerais revenir, monsieur Sprumont, sur le début de votre intervention à propos du prosélytisme. Je suis membre d'Exite. Je vais chaque année assister aux assemblées générales qui se passent quelque part en Suisse romande. Je n'ai jamais entendu qui que ce soit du comité dire « il faut absolument autour de vous parler de nous, il faut absolument qu'on recrute des membres, etc. » Il n'y a jamais eu cette attitude. Alors, on peut se poser la question, et je vais vous répondre, pourquoi je suis membre d'Exite. Mon papa était un type que j'ai beaucoup admiré, qui était grand, qui faisait du sport, qui ne fumait pas, qui ne buvait pas, qui avait beaucoup de qualités que je n'ai pas moi-même. Et il est mort après 20 ans d'un Parkinson qui l'a complètement détruit. J'ai eu discuté avec lui quand je pouvais encore, parce qu'il a fini, évidemment, il est mort dans un hôpital psychiatrique fou. Et effectivement, j'ai essayé de discuter avec lui, j'ai essayé de le convaincre de faire quelque chose, parce que je me suis renseigné s'il y avait des possibilités de sortir de cette vie qui était absolument horrible pour lui. Et il ne l'a pas fait, il est mort lamentablement, et ça m'a donné l'envie à moi de faire autrement et de vivre une vie autrement que lui avait vécu. C'est tout. Donc il n'y a aucun prosélytisme, en tout cas je ne l'ai pas ressenti comme
Monsieur,
ça.
Monsieur, donc comme on a compris, c'est votre choix.
Mais évidemment,
Vous mourrez avec Exite.
Si j'en ai le courage, oui.
Si vous en avez le courage. Est-ce que je demande, est-ce que c'est votre compagne ou votre épouse qui est là?
Pas du tout, une amie.
Bon, et au fond, est-ce que c'est une décision, une réflexion, une marche que vous partagez avec vos proches?
C'est une décision que j'ai plutôt imposée à mes proches, sur laquelle on n'a pas eu l'occasion de discuter beaucoup, parce qu'en fait, la situation ne s'est pas présentée pour moi. Simplement, je veux dire, mais j'ai quand même, on doit désigner une personne qui sait le choix qu'on a fait, mais ça n'a pas débouché sur des discussions.
Question indiscrète, monsieur, vous avez des enfants ?
J'ai deux enfants, oui.
Vous en parlerez avec eux ?
C'est déjà fait.
Et quelle a été leur réaction, leur attitude ?
Mais vous savez, quand vous parlez à un jeune de 20 ans de la mort, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il n'a aucune notion. Il va vous dire une phrase aussi creuse que du style « c'est ton choix, tu ferais ce que tu veux » et c'est tout. Donc il n'y a pas eu d'autres réflexions que celle-là. Je pense que la discussion sera ouverte au moment où je devrais éventuellement prendre la décision de les impliquer dans ma mort si je le fais.
Je me permets un tout petit peu plus loin et vous ne répondez pas. Vous dites « si j'ai le courage hein, », ce sera mon choix. Qu'est-ce qui est au cœur du courage? Qu'est-ce qui serait, si on ose vous demander d'aller un peu plus au fond, de nous dire quelles sont les résistances pour ce que vous appelez le courage de choisir la mort avec Exite? Qu'est-ce qui vous retient? C'est la morale? C'est l'éducation religieuse? C'est la peur? C'est
vraisemblablement la peur, hein. Vous avez tous lu comme moi,
la
certainement.
La culpabilité.
Je ne crois pas, je ne le vois pas, de cette façon-là, mais plutôt la peur, quoi, simplement la peur de quitter quelque chose qu'on a beaucoup aimé et puis de devoir prendre une décision qui est énorme, qu'on le veuille ou non. Et qui va impliquer d'autres personnes, je ne sais pas, pour l'instant, c'est difficile de le dire, quand j'ai l'impression d'être en bonne santé, donc je ne suis pas directement confronté à cette situation, mais j'ai vécu de manière très douloureuse le décès de mon père, pas sa mort en tant que telle, mais la façon dont il est mort. Et je voudrais m'éviter ça si la chose est possible.
Merci. Qui ? Il y a des jeunes ici. Oui, alors, on donne à monsieur. J'espère qu'il y a aussi des personnes. Là, on est dans une touchante unanimité. Hein ? Vous êtes sacrément en progrès à Neuchâtel. Mais peut-être il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord ici. Hein ? Dites-le aussi. Hein ? C'est pas. On n'est pas en un cours de catéchisme. Hein. Monsieur ?
Oui, bonsoir. J'aimerais poser une question. On a bien compris qu'il faut une décision subjective, une autodétermination pour ne pas passer dans cette procédure. J'aimerais quand même connaître les motifs ou les conditions objectives qu'il faut pour demander avec succès l'assistance au suicide. J'imagine quand on digère mal une fondue, une raclette pour vous... on ne peut pas dire j'aimerais descendre du monde. Hein. Alors, j'aimerais interroger, je ne sais pas, le médecin, peut-être, oui. M. Sprumont, sur la jurisprudence, ou Mme Litti, sur les expériences qu'elle a vécues.
Quelles conditions il faut ?
Objectives, je dirais.
Objectives, pour qu'on soit légitimé, oui. Pour que oui, exit intervienne.
Pour exit passe à l'acte, en somme. Voilà. J'imagine qu'il faut quand même deux, trois conditions.
Soyez très clair, c'est une question qui revient sans arrêt, ça.
Alors d'abord, il faut que la personne soit tout à fait déterminée et dépose un document manuscrit disant que c'est sa volonté, qu'elle a choisi, elle demande une assistance à mourir. Donc elle doit faire ça d'une manière manuscrite. Si elle ne peut pas le faire, il lui faut un acte notarié qui attestera que c'est bien elle qui demande ça. Ensuite, on lui demande un certificat médical, c'est-à-dire une attestation en général de son médecin traitant qui décrit son état. Et puis, c'est sur la base, souvent, de ce certificat médical qu'on décide... De toute façon, quand une personne a déposé un certificat médical, aussi j'en ai vu certains qui étaient assez farfelus, ça n'empêche, quand on a le certificat médical et cette lettre manuscrite, exit au secrétariat, le donne à un accompagnateur qui va voir la personne. Et c'est en allant discuter avec la personne qu'on peut voir, un, si la capacité de discernement, on demande aussi qu'elle soit attestée par le certificat médical. On demande que le certificat médical, le médecin dise si cette personne est capable de discernement. Parfois, ça, c'est pas dit de manière très claire, donc l'accompagnateur doit aller vérifier ça en discutant avec la personne. Et puis, c'est sur la base de cette discussion et du diagnostic, en général du diagnostic, qui est la plupart du temps quand même, une maladie dépassée, un cancer dépassé, ou de très graves handicaps, ou des douleurs grosses que le médecin marque, on ne peut pas les réduire. On a essayé de les réduire, on a tout essayé. Il y a souvent des gens qui ont déjà eu des soins palliatifs sans succès, surtout pour les douleurs, par exemple, neurogènes. Ça, ce sont tous des motifs qui nous disent on peut rentrer en matière. Voilà.
Est-ce que la réponse est claire, monsieur ?
Pardon ?
Non, je vais poser la question. J'en ai marre, ça ne suffit pas.
Alors non, j'ai vu une fois une dame, j'avais été la voir, qui m'a dit, voilà, moi maintenant, vous voyez, c'est ça que je ne veux pas. Elle habitait une très belle maison qui donnait juste sur le jardin d'un home. Donc au fond, elle voyait toute la journée des gens en déambulateur, et puis elle m'a dit, ça, moi, je ne veux pas. Alors bon, j'ai discuté avec elle, puis je lui ai dit, mais enfin, écoutez, maintenant, vous allez très bien, puis elle était encore dans sa grande maison, etc. J'ai dit, ben, le jour où vous devez rentrer dans un home, allez là en bas. Il y aura bien des motifs qui font que vous devez aller, quitter votre maison, etc. Là, on pourra rediscuter. Et puis, je dois encore juste rajouter une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens, je dirais à peu près 25% des gens qu'on voit, à qui on peut dire, votre dossier, il est accepté. Eh bien, une fois qu'on leur a dit, votre dossier est accepté par exit, ils sont tellement soulagés qu'au fond, ils ne demandent plus jamais rien. Parce qu'ils ont leur joker en poche, ils se disent, si ça ne va pas bien, je pourrais le rappeler. Donc, au fond... Ça aussi, cet effet-là, de rassurer les gens en disant, si vraiment votre situation, elle vient affreuse, rappelez-nous, votre dossier est accepté. Eh bien, ça suffit. Pour 30% des cas, on n'en entend plus parler.
Donc, un effet thérapeutique.
Un effet calmant, thérapeutique et rassurant. Et ça, je trouve, c'est un effet très bénéfique. Voilà.
Monsieur, non. Est-ce que madame a répondu?
J'aimerais
réagir. On va demander maintenant au juriste.
J'ai une toute petite question encore. Sur le processus, le médecin fait le diagnostic. Bon, est-ce qu'il est bien placé déjà, le médecin traitant, hein? J'ai un doute. Mais le médecin fait le diagnostic, puis ensuite, l'accompagnateur n'est pas forcément un médecin.
Non, mais le dossier avec le certificat est vu par un médecin d'exit.
Ah, d'accord.
Comme on a plusieurs médecins à Genève, à Lausanne, etc., il y a encore un autre médecin qui regarde.
D'accord.
Et puis, suivant la pathologie, par exemple, des personnes qui ont des maladies genre Alzheimer débutant et qui ne veulent pas la chute, on demande qu'il y ait aussi un rapport tout à fait circonstancié d'un neurologue spécialiste.
Hein? D'accord, voilà. Merci. Merci beaucoup.
Alors,
mais justement, je crois
Sprément.
Que ce qui est important, c'est de bien avoir à l'esprit, c'est que juridiquement, le consentement est une condition nécessaire, mais pas une condition suffisante. Pour que le consentement soit valable, il faut que toute une série de conditions très précises soient remplies, qui sont d'une part liées à l'information de la personne, à sa capacité de discernement, on vient de l'évoquer. Alors, fort heureusement, notre Code civil, l'article 16, crée une présomption de capacité de discernement. Donc, moi, j'adore poser la question aux étudiants quand j'ai à traiter cette matière, c'est « est-ce que je suis capable de discernement ?» C'est toujours intéressant. J'ai posé une fois la question, il y avait 25 psychiatres, il y en a 5 qui m'ont dit non. Je les ai tracés de la liste, j'ai dit de toute façon, ça... Je ne les ai pas tracés parce qu'ils avaient fait un mauvais diagnostic, parce que bon, ça, c'est à eux de déterminer, mais juridiquement, un psychiatre doit le savoir, il y a un article 16 dans notre code civil qui crée une présomption. Donc, si on veut dire que la personne en face n'est pas capable, il faut le démontrer. Comme l'a expliqué Daphné, ben, évidemment, là, il y a des tests qui sont plus ou moins compliqués. Et ça, c'est vrai que le médecin traitant, je peux émettre, connaissant un petit peu ces tests, un certain doute aussi par rapport à leur capacité professionnelle, toujours de faire le test qui est adéquat par rapport à la pathologie, parce que ça peut, dans certaines situations, être un test complexe. Mais en plus de ces éléments donc de capacité de discernement, il faut que ce à quoi on donne le consentement soit conforme aux bonnes mœurs et à l'ordre juridique. Oui, donc, ce n'est pas un élément anodin. Donc, si on demande de l'aide à un médecin, il faut que, du point de vue du médecin, ce qu'il va faire respecte les règles de l'art. Et donc, à partir de là, il y a un processus qui est un processus professionnel de diagnostic, d'évaluation de la situation. Et il est clair, comme la boutade, le simple fait de dire « j'en ai marre » ou etc., médicalement, ce n'est pas un élément qui sera suffisant pour justifier que le médecin intervienne. Il faut que, là, il y a un jugement médical qui va répondre aux différents critères qui ont été évoqués par Daphné, pour pouvoir déterminer si effectivement, médicalement, on est dans une situation qui est à ce point désespérée qu'effectivement, la qualité de vie, le fait de vivre dans la dignité de cette personne ne soit plus garantie.
Mais j'aimerais quand même juste rajouter une chose très importante. Ces critères, c'est Exit qui se les a mis. Au fond, on est aussi tenu par le fait, pour les problèmes, puisque le pentobarbital qu'on utilise, il est sur prescription médicale, donc il faut donc des motifs médicaux pour qu'un médecin prescrive. Mais au fond, le code tout prend, qu'on prend le code pénal, il met aucune condition à l'assistance au suicide, elle n'est pas punissable s'il n'y a pas de mobile égoïste. Donc quelqu'un qui serait très déterminé, qui en a marre, et puis un bon ami l'aide juste par compassion, et qu'il n'a pas de mobile égoïste, et qu'il n'hérite pas, au contraire, eh ben, à mon avis, il ne devrait pas être poursuivi non plus. Mais bon, je ne sais pas ce que dirait la jurisprudence, mais le code, il ne demande aucune condition.
Faut bien, mais il n'y a, pas de raison de se fâcher là-dessus. Y a, mais oui, je sais. Mais c'est un énervement de bonne aloi. C'est vrai de le rappeler, hein, l'article 115 du code pénal, ne vise pas les médecins. Et je crois que ça, c'est peut-être un élément sur lequel on n'a pas encore parlé. C'est que, via Exit, il y a quand même, d'un point de vue médiatique, une médicalisation du suicide. Alors qu'on a beaucoup d'armes à disposition dans notre pays, il y a différentes manières de pouvoir se suicider qui existent. Ici, à partir du moment où un médecin intervient, il est clair que ce médecin ne peut pas subitement enlever sa casquette de médecin pour dire « ah ben non, maintenant je suis dans l'application de l'article 114 ». Non, comme il est médecin et qu'il a un certain nombre de devoirs liés à sa profession, s'il prescrit du pentobarbital, le médecin sait qu'il va devoir respecter les règles de l'art, et il ne peut pas le faire n'importe comment. Exit a adopté un certain nombre de critères qui sont raisonnables. Preuve en est, c'est que les poursuites contre les médecins d'Exit sont rarissimes. Hein, le cas dont on a parlé en introduction est exceptionnel vu les circonstances, parce que, effectivement, d'un point de vue technique, l'acte final n'a pas été fait par la personne qui est décédée. Mais on a bien vu que dans ce cas-là, c'était une vue de l'esprit. Hein, la différence entre bouger l'orteil ou bouger l'œil, en fait, techniquement, on sait que... Je pense que vous avez pu acquérir d'ailleurs le matériel qui permet maintenant, avec beaucoup moins de mouvement à la personne, de faire le dernier geste. Mais ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où c'est un médecin, le juge, que ce soit un médecin d'Exit ou un médecin extérieur, va appliquer des critères de référence. Probablement, ce seront les critères d'Exit, il n'y a pas de raison. Après, la difficulté, c'est qu'en Suisse alémanique, on voit maintenant des médecins qui évoquent la possibilité d'une assistance au suicide pour des personnes incapables de discernement. Et là, on traverse la frontière, puisqu'on n'est plus dans un suicide au sens du code pénal, puisque la personne incapable de discernement, juridiquement, ne peut pas valablement engager ses actes. Et donc, c'est plus une assistance au suicide. Et je crois que là, on doit être très attentif, et les médecins le sont. On parlait de ça en introduction. Je suis membre de la commission centrale d'éthique de l'Académie suisse des sciences médicales. Les membres de cette commission n'ont pas de préjugés en tant qu'institution par rapport à cette situation. On observe très attentivement l'évolution de la situation, mais il est clair que d'aider un patient dans la souffrance est un acte qui fait partie de l'éthique médicale depuis l'origine de la médecine. Et la manière dont on va réaliser cet accompagnement, évidemment, va varier en fonction des âges et des moyens à disposition. Aujourd'hui, on a des moyens très avancés en soins palliatifs, mais à un moment donné, les soins palliatifs, ils n'aident plus.
Et Anna Lietti ?
Oui, moi j'aimerais revenir sur la question que j'ai posée tout à l'heure. D'après ce que j'ai compris, Exit reçoit plus de demandes qu'il n'arrive à en traiter, ce qui engendre des dysfonctionnements parfois. Par exemple, des personnes pas prêtes envoyées comme accompagnateurs. Là, j'ai eu vraiment des témoignages. Difficulté à trouver les dates. Enfin, bon. Maintenant, j'aimerais juste poser la question aux personnes qui sont là. Comment est-ce que vous voyez la suite ? Comment est-ce que vous y... Enfin, comment, à votre avis, ces demandes en plus seront traités à l'avenir. Enfin, comment est-ce que, puisque les personnes doivent être forcément bénévoles, donc on ne peut pas professionnaliser les auto-suicides, ce qui serait en plus, ce serait évidemment un business un peu douteux, c'est pas imaginable. Comment vous voyez-vous, comment on va pallier ce problème ?
C'est un énorme problème.
Alors, mon problème.
C'est un énorme problème.
Oui, d'accord. Mais actuellement, d'abord, en tout cas, à Neuchâtel, les dossiers sont traités très rapidement. Je suis connue pour m'occuper, alors vraiment très rapidement, des gens qui me demandent d'aller les voir. Je vais les voir quasi le jour même, ou si ce n'est le lendemain. Donc en fait, on arrive, avec l'équipe qu'on est sur Neuchâtel, à traiter toutes les demandes. Première chose. Deuxième chose, moi, ce que j'espère quand même, c'est que demain, ou en tout cas très prochainement, ça rentre dans... Il y a quand même une génération de médecins plus jeunes, j'espère plus ouverts, et j'espère au fond qu'ils se rendront compte à la longue que le boulot du toubib, c'est aussi de savoir accompagner son malade jusqu'au bout et de l'aider à mourir s'il faut l'aider. Et moi, j'espère beaucoup que demain, il n'y aura plus besoin d'Exit parce que les médecins seront d'accord d'aider leurs patients souffrants.
On va revenir. On est au cœur. On est au cœur. Moi, je trouve la position qui se dégage ce soir, elle est... Vous êtes admirable à Neuchâtel. Et je, entre l'unanimité qui, pour le moment, sent ici, et la violence des débats auxquels on assiste régulièrement sur nos ondes, il y a une dissonance. Et là, vous êtes apparemment, on est dans un petit miracle neuchâtelois. Je dois vous dire, dans ces débats, je le trouve rarement une unanimité pareille. Madame, mais je vais revenir. Madame.
Bonsoir. Moi, j'aurais souhaité revenir sur la différence qui a été faite entre euthanasie d'une part et suicide qualifié de classique d'autre part, d'ailleurs qui a été dépeint de manière assez caricatural, comme si ça ne rentrait pas vraiment dans les questionnements de ce soir. Je voulais savoir si les associations, donc notamment Exit, moi je suis française, hein, donc je découvre en fait cette association, ça s'entend mon accent, c'est ça les rires derrière, d'accord. Si les associations étaient confrontées à des personnes qui présentent des maladies psychiatriques assez graves, qui semblent saines d'esprit, qui pour certaines d'entre elles vivent un véritable enfer et qui expriment très clairement leur désir de mourir, comment ça se passe avec ces personnes-là? Est-ce qu'il y a une prise en charge qui est envisagée ou pas?
Madame, je voudrais, moi, vous donner une réponse. Vous ouvrez un abîme, mais je voudrais le dire qu'il n'y a rien à voir, quitte à décevoir tous les membres d'Exit, entre le suicide dans la société et le choix de la fin. En aucun cas, aucun exit au monde résoudra en quoi que ce soit l'autre suicide. Je voudrais qu'on soit très clair là-dessus. Hein. Dans les cafés mortels, j'entends quand les familles parlent, quand les privés parlent, quand les gens s'expriment sur le suicide qui atteint aujourd'hui un nombre de jeunes incroyable, d'adolescents. Hein. Aucun exit du monde, rien. C'est un autre problème. Pour moi, c'est très clair. C'est un autre problème. Aucun suicide, aucun exit du monde, aucune solution. D'ailleurs, on est tous désarmés là-dedans. Les associations d'aide au suicide se multiplient aujourd'hui. Hein, ça ne diminue en rien. Alors, c'est un autre café que nous devrions faire là-dessus, sur ce suicide-là. Chaque fois que j'ai un café mortel, je sais aujourd'hui qu'à partir d'un moment donné, les familles vont parler de ce suicide-là, vous voyez, de leur adolescent, de leurs proches, de leurs jeunes. Elles ont toutes à charrier un nombre de problèmes énormes. Et pour moi, ça, c'est bien deux catégories très distinctes de problèmes. Je pense le cas du suicide, hein, au sens plus, j'ai envie de dire, plus classique du mot, et un nouveau problème qui est apparu dans nos sociétés occidentales il y a 30-40 ans, qui est le choix de sa fin, que par malheur on a appelé l'assistance au suicide. Je suis pour enlever ce mot, mais on ne pourra pas l'enlever maintenant, parce que ce mot crée les plus grandes confusions. Voilà ce que je voudrais vous répondre. Hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Oui.
Mais Exit ne peut rien faire comme n'importe quelle thérapeutique sur ce suicide-là.
Oui, parce que moi, c'est pour ça que je préfère, plutôt que le terme assistance au suicide, j'aime mieux dire aide à mourir. Parce qu'au fond, les personnes qu'on aide avec Exit, la grande, grande majorité, c'est des gens qui ont un cancer dépassé, ou l'oncologue, par exemple, ils s'inscrivent quand ils ont reçu la nouvelle par l'oncologue, écoutez, après votre cinquième chimio, ça ne marche pas. Eh ben, je pense que dans 3 mois, ça, vous serez mort. Donc, au fond, voilà. Et puis, ce qu'ils ne veulent pas, c'est les 3 mois d'horreur avant la mort. Donc, au fond, c'est une aide à mourir. Ce n'est pas un suicide comme un jeune. Ce n'est pas un suicide comme quelqu'un de 40 ans dont sa femme le quitte, qui a plein de dettes. Et puis, voilà. Ce n'est pas ça du tout. Donc, au fond, c'est vraiment une aide à mourir. C'est pour ça qu'effectivement, moi, je plaide aussi pour qu'on l'appelle autrement. Que l'assistance au suicide. Techniquement, c'est un suicide, mais j'entends. Voilà.
Maintenant, moi, j'ai une question. Il reste.
La question de maladie psychiatrique, c'est important.
Alors, parce que je voudrais juste préciser que, voilà, encore une fois, on se suicide parce qu'on vient de se faire quitter par sa femme. Le suicide, c'est pas que ça. Il y a des personnes qui souffrent de pathologies extrêmement graves, qui sont pas complètement dingues, et qui pourtant expriment ce besoin de mourir qui ne supportent plus la simple idée de vivre. Donc c'est pas que suicide parce que j'en ai ras-le-bol de la vie. Enfin, voilà, enfin, ça me paraît important quand même de le préciser. Et voilà, est-ce que moi j'ai rencontré des personnes qui étaient gravement malades, qui pour elles se suicider c'était de l'euthanasie, et qui ne comprenaient pas pourquoi justement on faisait cette distinction là et qu'on faisait une séparation entre quelqu'un qui a un cancer en phase terminale et leur propre maladie qui était donc psychiatrique et qui donc au final ils devaient faire avec. Donc voilà, c'est le problème, il est là, et je pense que il n'est pas si clair que ça.
Non, mais vous avez Là, vous avez entièrement raison. Ça ouvre un autre abîme. Mais moi, ça ouvre un autre abîme, celui-là. Je regarde l'heure avancée et j'aimerais vous poser une question à tous les trois et à vous. C'est un sujet, encore une fois, je trouve ce soir une grande unanimité finalement sur le fond ici à Neuchâtel. Je vous signale quand même que quand on a en débat l'Association suisse de soins palliatifs et les partisans d'exit, c'est plutôt la polémique violente. Nous sommes dans un pays où il y a une dissociation, à mes yeux, grave entre l'adoption par la Société suisse de soins palliatifs qui ne veut pas entendre parler d'aide au suicide, et ce que vous dites ce soir. Alors, moi, je vais beaucoup en Belgique. Je vais beaucoup voir ce qui se passe en Belgique pour comparer. La Belgique est un pays où il y a une loi, contrairement à nous, avec un certain nombre de pays. Il y a une loi en Belgique. Et ce que je peux remarquer, contrairement à tout ce qui a été dit, depuis l'adoption de la loi, il n'y a aucune augmentation en Belgique de demande d'assistance au suicide. Aucune. Deuxièmement, la loi belge, m'entendez bien, contrairement à nos pratiques suisses, demande que ce soit les associations de soins palliatifs qui s'occupent de ces demandes-là, contrairement à nous. Et j'ai voulu suivre jusqu'au bout. J'ai demandé à être présent dans des équipes de soins palliatifs en charge de ça. Et je trouve, et si vous voulez, la troisième condition belge, il y en a beaucoup d'autres dans la loi, il y a beaucoup d'autres, c'est que, contrairement à Exit chez nous, la piqûre finale, elle est toujours faite par un médecin. Et ça, pour moi, c'est un choix fondamental. Moi, je suis très réservé sur les bénévoles non médecins. Je pourrais m'expliquer longtemps là-dessus. Seul le médecin, parce qu'il sait de quoi il s'agit de la vie, peut s'agir de quoi il s'agit de la mort sans déconner. Mais c'est on ouvre un autre grand problème ici. Ma question à vous trois est la suivante. Bernard Créta, aujourd'hui, après voir ce que je... Moi, je ne supporte plus la guerre de religion, je suis obligé de le dire, entre l'Association suisse de soins palliatifs et les associations comme Exit ou autres. Monsieur le directeur, votre position, elle est admirable. Vous le savez très bien, la schizophrénie de tout un certain nombre de directeurs d'institutions qui n'osent pas faire comme vous. Et vous le savez, etc., en Suisse romande. On a vu comment ça a été la polémique dans le canton de Vaud. Moi, aujourd'hui, sans que ce soit l'ombre d'une position ferme, je serai, je dois vous dire, pour une adoption par la Suisse d'un type de loi du genre de la Belgique. Je ne vois pas pourquoi ça serait plus clair, plus net, ça mettrait fin à des associations comme Exit. Vous faites pour l'instant un travail remarquable. Pourquoi êtes-vous si, en Suisse, est-on si bloqué, fermé? Monsieur le juriste, commence par vous.
Vous allez souvent en Belgique, mais moi je suis belge. Donc ça me donne une légitimité peut-être pour en parler. Ma grand-mère a été accompagnée dans sa mort avant que la loi belge soit adoptée. Elle était dans un home où le directeur était moins compréhensif que vous et la loi belge était plus stricte. Les médecins belges, en tout cas publiquement, avaient une position qui était plus proche de celle de la Société suisse des soins palliatifs que d'Exit. Ceci dit, un médecin était d'accord de l'aider. Elle souffrait d'un cancer des os, qui est un cancer, pour ceux qui le savent, extrêmement douloureux. Chaque mouvement toussé peut provoquer des fractures et donc la douleur est intolérable. Et donc elle a bénéficié d'une injection de morphine qui était un peu plus généreuse que celle dont a bénéficié votre maman. C'était avant l'adoption de la loi en Belgique. Preuve en est qu'il y avait des médecins qui, en Belgique comme en Suisse, comme en France probablement, comme au Québec et ailleurs, mais qu'ils n'en parlent pas. Et je crois que ça, c'est important de le signaler. J'ai eu l'occasion de superviser une thèse, un mémoire de master en sociologie à l'Université de Fribourg, où l'étudiant a interrogé des médecins suisses qui avaient pratiqué l'euthanasie active. Donc on ne parle pas d'assistance au suicide, mais vraiment le fait de volontairement abréger les souffrances d'une personne. Et il avait reçu des témoignages, un nombre que moi-même j'avais trouvé surprenant et intéressant de constater. C'est justement pour ça, là, c'est ma réponse à votre question, je crois que le cadre légal, on doit s'interroger de savoir quelle est sa raison d'être. La loi existe habituellement parce qu'elle a été violée. La transgression de la norme précède l'adoption de cette norme. S'il n'y a pas de transgression, si dans la société un phénomène, une activité, des relations humaines se résolvent sans intervention de l'État, l'État de droit est un État fort heureusement qui a un rôle subsidiaire, il n'y a pas de raison de légiférer. Donc si on doit adopter une loi, c'est qu'il y a un besoin. Dans le cas particulier, ce que moi j'entends étant impliqué dans le domaine depuis 20 ans à peu près, à titre professionnel, observant la situation sous l'angle du droit des patients et des processus législatifs successifs qui sont déroulés tant au niveau cantonal que fédéral, je ne ressens pas cette nécessité d'agir parce qu'il y aurait subitement un déséquilibre qui impliquerait une action. Au contraire, je préfère très nettement réaffirmer ce que j'ai fait en introduction, ce que je ne me gêne pas de faire à chaque fois, l'article 111 du Code pénal, rappeler le premier commandement, tu ne tueras point, ce n'est pas un acte qui est un acte anodin d'accompagner quelqu'un dans sa mort, c'est un acte grave. S'il y a une assistance au décès, ça doit rester un acte grave. Et je pense que dans la position du droit suisse actuel, qui est une position de tolérance, ce qui fait justement la différence entre la Suisse et la Belgique d'avant la loi, c'est que les médecins en Belgique, avant la loi, devaient se cacher. Il n'y avait pas de débat public parce que ça ne pouvait pas exister, alors que si vous discutiez avec les médecins, ça existait. Eh bien, en Suisse, on a cette tolérance grâce à notre article 115 du Code pénal, mais en même temps, on sait que si la frontière est dépassée, il y aura sanction. Et je crois que c'est salutaire. Ça responsabilise les acteurs. Donc, le statu quo, ce n'est pas un statu quo de dépit ou de déresponsabilisation. Au contraire, c'est un statu quo qui est dans un choix volontaire, moral et juridique par rapport à une situation qui est complexe, mais qui exige d'être vigilant. Et je ne voudrais pas être mal compris quand je parlais de prosélytisme avant. Ce n'est pas individuellement à laquelle je pense, mais l'existence même d'associations excite pour la Suisse romande à une position morale, à mon avis, qui est tout à fait respectable et qui n'amène pas à critique d'un point de vue juridique, alors que quand on écoute certaines prises de position de Dignitas ou d'autres associations suisses alémaniques, on sent le dérapage potentiel, on sent les dérapements potentiels. Et là, il y a de quoi s'inquiéter. Je crois qu'on doit trouver l'équilibre entre justement cette gravité de l'acte et la normalisation de cette assistance.
Madame.
Alors, pour ma part, je ne suis pas non plus pour une loi. À vrai dire, je trouve que la situation actuelle, elle va bien.
Elle va bien.
Elle va bien. Et puis, je trouve qu'au fond, si on donne, si on oblige les médecins à faire ça, au fond, c'est... Encore une fois, on donne du pouvoir aux médecins. Je trouve qu'ils en ont déjà beaucoup sur notre vie. Et je trouve très bien que les gens puissent choisir leur mort autrement que toujours sous l'œil médical. Alors moi, je trouve que la loi comme ça, elle va très bien. Et comme dit Dominique, qu'on puisse sanctionner quand il y a des dépassements, comme j'ai fait si ce n'était pas dans les mêmes circonstances, ça me semble normal. Voilà.
Et
puis, je veux encore juste dire une chose à propos des soins palliatifs. Il ne faut pas quand même vous désespérer, parce que je crois que la situation, elle va quand même aller mieux. En tout cas, à Neuchâtel, j'ai accompagné une personne. Elle était à la Chrysalide, qui est donc notre hôpital de soins palliatifs. Elle a exprimé son désir de mourir. Bon, pour une raison que j'ignore, je n'ai pas cherché à savoir pour ne pas faire des grands débats, eh ben, ils n'ont pas voulu lui faire la sédation palliative qu'on peut faire. Ils ont préféré qu'elle rentre à domicile pour que je l'aide. Mais ils ont tout organisé. Ils m'ont dit quelle heure. Voilà. Donc, au fond, ils ne sont pas bêtes et méchants. voyez ce que je veux dire. Voilà.
Alors, bon, sur le thème de la loi, enfin, je suis comme madame, je pense que moins il y a de loi, dans l'occurrence, mieux c'est. Je constate quand même qu'on est dans un moment où on est bien loin de l'acharnement thérapeutique comme comportement hein, des médecins dans les hôpitaux. Ma mère est morte l'année dernière à l'hôpital à Lausanne, dans les mains d'une charmante dame des soins palliatifs. On s'était dit... Ok, on est d'accord maintenant, on privilégie le confort, c'est ça le code. On privilégie le confort, c'est bon là, on privilégie le confort et puis c'est un peu le mot, enfin, comment dire, le mot de code pour dire on y va avec la morphine, au revoir maman, voilà. On est dans des situations qui sont, je trouve, on n'est plus dans cette situation tendue où il y avait une médecine qui s'acharnait à faire vivre les malades. Et je pense qu'on est, enfin, l'assistance au suicide va devenir quelque chose de, va se développer parce que ça va avec une société qui privilégie le choix individuel et que forcément, ça va se développer. Ce que je pense, c'est qu'on devrait, nous, à part le droit, exit et tout, je trouve que chacun d'entre nous devrait, au fond, se demander. Comment faire, parce qu'après tout, c'est une réalité nouvelle pour tout le monde. Hein. Et quand on parlait de... Je pense qu'on peut dire au revoir aux gens. Je pense que la plupart... J'ai peut-être un peu insisté tout à l'heure avec le fait qu'il y avait des méchants qui profitaient de leur mort pour semer la zizanie dans leur famille. En fait, c'est probablement pas la majorité. Mais je pense que beaucoup de gens ne se sont pas posé la question... au moment de dire à leurs proches, je vais m'en aller à telle date, hein, est-ce que tu viens voilà. Je pense qu'ils ils se posent pas la question, en fait. Ils sont dans leur histoire et ils se posent pas la question du poids que ça peut représenter pour les gens à qui on dit ça. Je trouve qu'on devrait s'inviter chacun à se poser la question de savoir le jour où on décide de le faire, est-ce que vraiment, qui est-ce que j'avertis? On peut dire au revoir à ses proches sans leur dire... on peut très bien convoquer, faire une fête et dire au revoir aux gens sans leur dire « je vais mourir à telle date » ou les convoquer vraiment le jour même. Hein. On peut très bien... voilà. Donc, c'est tout. Je dis qu'au fond, aussi pour nous, je pense que c'est en dehors alors des questions de droit et de tout, je pense que... Et en dehors des associations, je pense que pour les personnes, les familles, les gens qui vont être confrontés à ça personnellement, voilà, il y a des questions nouvelles. Et il y a une manière... Il y a une nouveauté métaphysique là, une nouvelle pratique qui se met en place et je pensais bien qu'on réfléchisse à comment on veut faire, comment on veut gérer la chose quoi.
Merci infiniment, on en reste là, on a un tout petit peu dépassé l'horaire. Merci à tous, je rentre dans mes montagnes sauvages avec l'impression suivante. Voilà, je vais vous dire, je dis, si jamais je vois des personnes qui ont des difficultés, je leur dis une adresse: Neuchâtel. D'abord, mais vous trouvez, vous arrêtez chez Anna Lietti, elle vous fait le portrait. Ensuite, vous vous pointez chez le juriste, alors il est cool, hein, là il va. Hein. Et puis, si jamais il restait un problème, je connais une toubib, alors qu'il vous les règle avec son collègue et son autre collègue. Et si jamais vous ne trouvez pas de place dans un home, je vous donne l'adresse d'un directeur, hein, il est mieux que prévu, hein, et alors merci à Neuchâtel du fond du cœur. Merci infiniment.
Merci beaucoup à Bernard Créta d'avoir bien voulu venir de son valet de domicile jusqu'aux montagnes neuchâteloises. Et on va rester un peu en écho à l'actualité, avec l'actualité neuchâteloise, pour vous annoncer le prochain café scientifique qui aura lieu le 14 novembre. On change tout à fait de thème. Bien voilà, on a refusé le RER. Alors, c'est comme si on avait prévu la chose quand on a édité le programme. Tout bagnole, plein gaz ou à la casse. Voilà. Alors, rendez-vous pour débattre de questions de mobilité le 14 novembre. Merci de votre fidélité.